Les grands ensembles. Bah, forcément, les pays d'ex-URSS, on en a énormément. Les grands ensembles de Belgrade, ils sont impressionnants. Je pense qu'il faut aller les voir. Moi, ça me fascine un peu. C'est toujours des architectures intéressantes. C'est un terrain de jeu pour les architectes. Dommage que ce soit pas pensé forcément pour la vie des gens.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, le 491e pour être précis, ce qui signifie qu'on n'est plus qu'à 9 émissions de notre fameuse délocalisation au bistrot Blériot pour fêter la 500e. Comme vous vous en doutez, vu que j'ai pris personnellement les choses en main, ouais. Tout avance très très vite, je dirais même à pas de géant.
On va pas le faire.
Si bien qu'à l'heure où je vous parle, les bookmakers estiment plus probable qu'on fasse un jour notre sortie karting plutôt qu'on réussisse à tirer des câbles jusqu'au Blériot. Bref, le doux parfum de l'échec flotte sur ce projet. Un parfum de l'échec que connaît bien mon camarade Quentin, lui, qui, échaudé par sa rencontre tumultueuse il y a quelques mois avec des wesh qui avaient voulu piquer son sandwich dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15e à Paris, le plus grand ensemble dans lequel il se soit jamais rendu sans voiture blindée, a renoncé aujourd'hui à se rendre à Grigny pour son micro-trottoir sous prétexte que, je cite, son passe Navigo n'inclut pas la zone 2, alors que... lui faisait remarquer habilement notre rédacteur en chef, il n'y a plus de zone sur le pass Navigo depuis 2015, comme je le sais très bien moi
oui,
aussi. Bref, on est clairement face à un refus d'obstacle. C'est un refus d'obstacle, Quentin. C'est dommage, Quentin, car aujourd'hui on zoome sur les grands ensembles.
Vous verrez.
Ils devaient garantir la mixité sociale, offrir le confort à un maximum de gens. Ils sont devenus le symbole d'une ghettoisation qui n'est plus tenable. Faut-il les transformer, les raser? Comment ces grands ensembles ont-ils pu s'éloigner autant de leur objectif initial? Vous l'avez compris, aucun habitant de Grigny ne témoignera dans cette émission, Quentin ayant eu les chocottes d'aller dans l'Essonne. Heureusement, notre invité, lui, y a bossé pendant 10 ans. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Alors, Cyril, je vais vous raconter une petite scène d'hier matin. Mathieu,
c'est dans Cyril. La... T'as dit c'est Cyril.
Mais parce que je voulais pas...
Bonjour Cyril.
Bonjour Jamy, comment ça marche?
Alors, hier matin, dans l'open space de Zoom Zoom Zen, oui. Mathieu Noël, à la cantonade, pose cette question... Mais avec le pass Navigo, là, on peut aller à Saint-Denis ou pas?
C'est fou.
J'ai évidemment jamais posé cette question, vous le savez bien. Parce que je suis allé à Saint-Denis pas plus tard que pour les Jeux Olympiques, n'est-ce pas, au Stade de France.
Donc
je sais très bien comment fonctionne le pass Navigo. Bonjour Jérôme Truc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur France Inter. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, membre de l'Institut des sciences sociales du politique. Pendant 10 ans, avec votre collègue Fabien Truong, vous avez enquêté à Grigny, ville de 26 500 habitants dans l'Essonne, et vous en avez tiré un livre grand ensemble, on va voir que c'est important de le prononcer comme ça, violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires, qui vient de sortir aux éditions La Découverte, l'envers des faits. Ensemble, on va essayer de comprendre l'échec de ces grands ensembles, juste le temps de vous présenter mes fidèles coéquipiers qui connaissent bien les quartiers populaires et les grands ensembles puisqu'ils ont vu Bac Nord. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour, c'est Manon, je précise, bonjour.
C'est Quentin, bonjour.
Oui, c'est Manon, voilà. C'est Quentin.
On fait ça maintenant.
Manon, vous qui avez grandi dans ces grands ensembles du 12e arrondissement qu'on appelle immeuble haussmannien, qui mieux que vous pour nous aider à aller plus loin sur notre thème du jour? Personne.
Cette musique, non, ça va pas. Un réalisateur français qui a grandi dans la cité des Bosquets de Montfermeil et qui a fait des grands ensembles son sujet principal.
Face à vous, Jérôme, il n'admettra jamais que c'est par peur qu'on lui raye son précieux scooter électrique qu'il a refusé de se rendre dans l'Essonne. Mais non, c'est juste que Jérôme y est allé déjà avant, ça aurait fait doublon, a-t-il plaidé, sans convaincre tout à l'heure, alors que Cyril lui faisait remarquer qu'une carte de presse, ça se méritait. Quentin, quelles que soient les raisons qui vous ont empêché d'aller à Grigny ce matin, vous nous livrerez quand même un micro-trottoir tout à l'heure?
Certes. Je ne suis pas allé dans le 91, j'aurais pu aller dans le 92, mais contre toute attente, n'écoutant que mon courage, bien sur un bout du 9-3 entre Bobigny et Romainville que mon micro s'est arrêté et mon scooter électrique est impeccable. Pourquoi? Parce qu'on ne vole pas les électriques, Mathieu, c'est trop chiant à charger.
J'ai remarqué aussi, effectivement, tu pouvez le laisser aussi longtemps tranquille. Que vous voulez, il ne partira jamais. Vers 16h30, l'un des moments les plus douloureux de la saison pour Manon, puisqu'on partira à la découverte des grands ensembles, loin, très loin des restaurants bistronomiques de l'Est parisien recommandés par le Fooding. Mais alors, ça sert à quoi d'y aller, m'interroge du regard Manon, et bien tout simplement à augmenter votre culture générale, qui est toujours le but du Zoom Zoom
mais
Test.
Mais pour qui on passe? Non,
juste avant
vraiment,
17h.
Wow.
Bon, la caricature est légère en ce qui vous concerne. Juste avant 17h, Rosa Burstein nous rejoindra. Mais d'abord, Jérôme Truc, pourquoi être allé à Grigny? Et pourquoi cette ville spécifiquement de Grigny? Et vous avez choisi de, non pas d'y poser vos valises, parce que vous nous le disiez en antenne, vous n'avez pas vécu là-bas, mais d'enquêter là-bas pendant une période de 10 ans. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette ville précisément?
Alors, on y est arrivé parce qu'on y a été appelé, en fait. On est en 2015. Moi, ma spécialité de recherche, au départ, c'est les réactions aux attentats, l'impact social des attaques terroristes. Et il se trouve que, donc, en 2015, il y a un collectif qui se forme dans la ville de Grigny parce que l'un des terroristes de janvier 2015, pas les frères Kouachi, mais Hamedi Coulibaly, est originaire de la ville. Et donc, dans ce contexte-là, il y a tout plein de discours médiatiques, politiques, qui mettent à l'index la ville, qui la désignent comme étant un repère de terroristes ou poussent des jeunes garçons qui sont des herbes folles et qui sont des terroristes en puissance, et un collectif d'habitants en fait complètement qui n'en peut plus en fait de ce discours-là qui n'est pas nouveau en plus, qui date déjà des années 90 mais qui est simplement redoublé dans ce contexte-là, met en place ce qu'ils appellent des murs de parole pour permettre simplement aux habitants de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et en fait, après, ils font appel à nous, donc ils lancent une bouteille à la mer, ils demandent à ce que des sociologues les aident à savoir quoi faire de tous ces messages qu'ils ont recueillis, ils sont un peu dépassés par ça, dans la perspective, en fait, de les restituer à la population. Ils ont envie d'organiser un événement public pour eux aussi marquer le premier anniversaire des attentats en 2016. C'est comme ça qu'on arrive, du coup, dans la ville le 13 novembre 2015, précisément. La première 2016. Fois qu'on rencontre ce collectif, c'est juste avant les attentats du 13 novembre.
Ah non, non, ah, d'accord, en 2015, c'est juste...
2015, okay. 2015, le 13 novembre. Et en fait, on se rend compte que voilà, alors on a des passes Navigo qui fonctionnent et qui nous ont permis d'arriver jusque-là.
très
et on
facilement.
Se rend compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de sociologues qui l'ont fait avant nous. Et en même temps, très vite, on se rend compte que Grigny, c'est non seulement la ville d'Hamedi Coulibaly, mais aussi la ville la plus pauvre de France, considérée comme la plus pauvre de France, avec deux grands ensembles emblématiques. L'un qui est la Grande Borne, un grand ensemble de parcs sociaux, de HLM, et un autre qui est une copropriété assez incroyable, Grigny 2, qui se voulait être un jumeau de Parly 2. Donc en fait, qui au départ visait vraiment des classes moyennes, supérieures, pour les gens qui travaillaient hors ligne, non loin de là, et qui sont en fait, qui ont fait passer cette Grigny d'une bourgade de 3000 habitants à tout d'un coup une ville de quasiment 30 000 aujourd'hui, quasiment du jour au lendemain, en quelques années, autour des années 60-70, avec en plus l'autoroute A6 au milieu. Et donc on se dit que c'est un terrain assez incroyable, ce qui fait qu'on reste effectivement bien au-delà de ce pour quoi on avait été appelé. On ne pensait pas en arrivant là, il passait 10 ans, mais les circonstances ont fait que ça a duré 10 ans.
Pour lui, le problème des banlieues sera résolu en 3 jours, quand Bruno Retailleau sera élu président de la République en 2027. Le temps n'est plus à la sociologie, mais à l'action, déclarait-il en conférence de rédaction en feuilletant votre livre. Jérôme, bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël. C'est Cyril.
C'est Cyril. Mais c'est pas vraiment ce que tu penses. Alors, vous qui avez une opinion assez tranchée sur le sujet, dites-nous, Cyril, les grands ensembles, d'où ça sort?
Connaissez-vous la revue L'Architecture d'aujourd'hui? Non? Eh bien, c'est un tort.
Allez.
Car c'est là qu'en 1935, Maurice Rothival utilise pour la première fois la notion de grands ensembles. Rothival, c'est un ingénieur urbaniste français. C'est à lui qu'on doit le plan de reconstruction de la ville de Reims au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Rothival est aussi membre de la Société française des urbanistes et il a enseigné à l'Université de Yale, aux États-Unis. Bref, Rothival, ça pèse dans le game de l'urbanisme. Et donc, c'est lui qui forge la notion qui nous intéresse aujourd'hui.
Et à quoi il fait référence quand il parle de ces grands ensembles?
Eh bien, d'abord, à la cité de la Muette qui a vu le jour à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Cette cité, c'est un projet des architectes Eugène Baudouin, Marcel Lotz et Jean Prouvé. Elle a été construite entre 1931 et 1937. 5 tours de 14 étages, des tours rattachées 2 par 2 par des immeubles allongés de 2 et 3 étages, avec un bâtiment en forme de fer à cheval baptisé cour d'entrée, bâtiment qui doit servir de lieu de rencontre et de sociabilisation. Cette cité de la Muette est communément considérée comme le premier grand ensemble de France. Anecdote sordide, cette cité de la Muette va aussi servir de camp pour enfermer les Juifs français avant qu'ils soient déportés dans les camps de la mort. Quant à ces grands ensembles, Maurice Rothival y voit une manière de théoriser l'urbanisme moderne en son réclamant de la charte d'Athènes. Et c'est quoi ça, la charte d'Athènes? Eh bien, ça nous vient du nom d'une publication de Le Corbusier en 1943 qui énonce les grands principes du fonctionnalisme en architecture et en urbanisme, des grands principes qui ont été mis à l'œuvre à grande échelle après la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est quoi aujourd'hui un grand ensemble? Faut-il les détruire? Est-ce qu'on s'est trompé en les construisant? Est-ce qu'on se trompe aujourd'hui à leur sujet? Qui y vit? Qui arrive? Qui en part? Faut-il les sauver? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Jérôme Truc, l'architecture, elle peut expliquer à elle seule une situation sociale comme laisse entendre Cyril?
Alors en fait, c'est la base même de la sociologie, c'est une des bases de la sociologie en fait, que la vie sociale est déterminée par le contexte dans lequel elle se déploie. Parce que un des fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim, appelait la morphologie sociale. Et donc en fait, pour comprendre la vie sociale, il faut d'abord voir où vivent les gens. Et donc, les grands ensembles, oui, déterminent un certain type de vie sociale. Il y a une grande étude classique de laquelle on repart sur les grands ensembles, qui a été signée par Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaître, qui portait sur un quartier de grand ensemble à Antony, et qui sont les premiers en fait à avoir montré que le propre d'un quartier de grand ensemble, c'est de faire coexister des gens qui sont issus de groupes sociaux très différents, qui se connaissent pas, qui se connaîtraient pas autrement. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, quand vous allez à Grigny, vous rentrez dans une tour de Grigny 2, donc qui sont les grandes tours, parce que la grande borne, c'est les petits immeubles en serpentin, en spaghetti, qu'on voit souvent. Les tours de Grigny 2, c'est ces grandes tours assez brutalistes. Sur un palier d'un immeuble à Grigny 2 aujourd'hui, vous pouvez avoir aussi bien, en fait, un couple de retraités communistes, militants communistes. Vous pouvez avoir une retraitée de l'éducation nationale, catholique, pratiquante. Vous pouvez avoir juste à côté une famille de Maliens, par contre. Et puis, dans un autre appartement, des travailleurs sans papier, qui parlent à peine le français, qui vivent là entassés, et ainsi de suite. Des gens qui sont, voilà, qui ont des trajectoires très différentes et qui vivent là les uns à côté des autres, ce qui donne du coup une situation sociale très hétérogène. Alors souvent on dit, voilà, on ne reconnaît pas ses voisins et on attribue ça à une forme d'individualisme, vous voyez. Non, ça tient simplement, Chamboredon et Lemaître sont les premiers à le montrer, en fait, au fait que là coexistent des gens qui ont des histoires très différentes et sont issus de groupes très différents.
Ils coexistent ou ils vivent ensemble?
Eh bien, justement, le fait de vivre ensemble n'est pas forcément une évidence. Ça va dépendre du fait que, du coup, sont mis en place aussi des espaces publics, des endroits où on peut se réunir, des lieux où on peut se rencontrer. On montre dans notre enquête en Grigny que tous ces lieux-là à Grigny font défaut. Quand ces grands ensembles sont créés, très vite, en fait, il manque des écoles, il manque des gymnases. Autant que tout ça s'installe, beaucoup de gens sont déjà repartis, en fait. Parce que dès le départ, il y a peu de financement. Et donc, en fait, dans ces immeubles, il y a une grande hétérogénéité sociale, beaucoup plus que dans un immeuble, comme ceux que vous évoquiez qui sont autour de nous. Un immeuble haussmannien du 16e arrondissement, c'est beaucoup plus homogène socialement. Et ce qui veut dire aussi que pour comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui, bah, on apprend beaucoup plus de choses quand on va voir des grands ensembles dans une ville comme Grigny que quand on va étudier un immeuble haussmannien dans le 16e arrondissement.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
De la promesse d'un progrès social à une ghettoisation, on zoome cet après-midi sur le concept des grands ensembles. Le sociologue Jérôme Truc est avec nous, lui qui signe justement « Grand ensemble, violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires ». Tout à l'heure, Cyril évoquait cette charte d'Athènes de Le Corbusier qui avait un mantra « du soleil, de l'espace, de la verdure pour tous les logis ». Ça partait donc d'un bon sentiment, ces grands ensembles. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
Alors ça part à la fois d'un bon sentiment et puis ça part à la fois d'une nécessité, c'est une manière aussi de répondre à ce qu'on appelle à l'époque la crise du mal-logement. Donc il y a quand même un besoin quand on rénove le centre de Paris en fait de repousser au loin ceux qui habitaient à l'époque dans les taudis du 13e arrondissement, donc c'est pour ça qu'on crée la Grande Borne. Donc dès le départ il y a quand même la volonté de repousser assez loin ceux qui nous gênent, les indésirables, bon voilà. Et donc en fait aussi de construire à moindre coût, c'est-à-dire que là on construit vite, à moindre coût, il y a aussi du profit qui est fait par des promoteurs immobiliers, c'est Bouygues qui construit la Grande Borne et qui construit. Alors, il y a les intentions de l'architecte et puis à la réalisation ensuite, avec notamment le recours à des panneaux préfabriqués qui sont défectueux dès le départ, on le sait, c'est signalé, mais les travaux continuent. Ce qui fait que si bien à peine on a inauguré la Grande Borne, en fait, il y a déjà des appartements qui sont insalubres. Et donc, en fait, dès le départ, le verre est dans le fruit. Mmh. Je le disais aussi pour le quartier de Grigny 2. Le quartier de Grigny 2, en fait, dès le départ, il n'y a pas les services qui sont annoncés. Et donc, en fait, les gens qui s'installent là, qui en ont vendu une sorte d'American Way of Life avec une piscine, etc., bah, très vite repartent parce qu'en fait, ils ne peuvent pas inscrire leurs enfants à l'école, le RER n'est pas encore là, etc. Et puis, bah, du coup, le promoteur dit « j'ai un manque à gagner parce que du coup, je n'arrive pas à vendre mes appartements au prix que je le souhaiterais ». Et comme en fait, il a tout à fait le droit, dans un cadre complètement déréglementé parce qu'il fallait construire vite, et il a le droit de construire autant qu'il veut sans permis de construire, du coup, il décide de densifier. Et donc, l'un des premiers combats des habitants localement, ça va être de se battre pour obtenir l'arrêt des constructions. Bon. Et ce qui fait qu'on arrive donc à ce quartier de Grigny 2, qui est le plus dense de France, et où donc, en fait, les conditions de vie ne sont pas du tout celles qui avaient été promises au départ, et où, en fait, très vite, les prix s'effondrent, et où, en fait, on se retrouve à avoir des appartements qui permettent à des gens qui ne peuvent pas s'installer ailleurs de venir s'installer là, en fait.
Et ils sont très peu rénovés, ces grands ensembles ?
Mais le problème, c'est qu'en fait, très vite, donc, dans, en particulier, une copropriété comme celle de Grigny 2, le bâti se dégrade et les charges s'alourdissent et donc c'est un cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire que les gens qui auraient eu les moyens de faire face aux charges s'en vont, ou quand ils peuvent plus faire face aux charges ils s'en vont, ils sont remplacés par d'autres qui sont attirés là par le fait qu'on a des appartements qui sont à un coût plus attractif qu'ailleurs, mais en fait eux aussi se retrouvent très surpris par le volume des charges qui ne fait qu'augmenter à mesure que ça se dégrade. C'est comme ça qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui. Mais aussi, parce qu'il faut bien le dire, du coup, les statistiques sont très formelles, hein, on les présente dans le livre. Une ville comme Grigny, c'est une porte d'entrée dans l'Île-de-France aujourd'hui pour des gens qui ont des trajectoires migratoires, tout simplement parce que d'autres villes, il y a pourtant une loi, hein, mais d'autres villes refusent en fait, de prendre leur part de la mixité sociale. C'est parce que dans une ville comme Neuilly-sur-Seine ou dans d'autres arrondissements de Paris, en fait, on va faire en sorte de ne pas avoir voilà, des logements pour accueillir les personnes qui en auraient besoin, que tous se retrouvent à, quelque part, échouer dans un quartier comme celui de Grigny 2. Et à partir de là, par contre, ils peuvent arriver à s'organiser, à prendre pied. Et très vite, en fait, on observe des micro-déplacements qui font que les uns et les autres vont, par exemple, de Grigny 2 à la Grande Borne, puis vers un pavillon, dans des communes qui sont alentour, et essaient dans toute l'île de France.
Quentin. Vous rappelez aussi dans le livre, Jérôme Truc, le taux de chômage qui est d'environ de 25% et la part de personnes non diplômées est de 68%. Pourquoi on a abandonné à ce point les quartiers populaires ?
Parce que, une fois encore, alors, on a un effet de concentration, en fait. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est aussi le sens, du coup, de notre titre, parce que, donc, il y a un jeu de mots sur grand ensemble, avec le ensemble où on n'a pas mis de S, donc, en fait, qui est un adverbe et pas un nom commun. Parce que, en fait, le fait de rester sur 10 ans comme on l'a fait permet de voir aussi les trajectoires. Ouais. Si on prend une photographie comme on le fait bien souvent sur les banlieues, on voit que la dégradation, on voit que les faits divers, on voit que les rixes, on voit que les policiers qui se font brûler, etc. Si on met les choses en perspective, on se rend compte qu'en fait il y a des flux permanents et il y a des flux de personnes. Au départ, Grigny, c'est d'abord des flux de biens. C'est-à-dire qu'en fait, avant même de construire les grands ensembles dont on parle, c'est la pierre meulière, par exemple, qu'on a extrait des terres ou des terrains où ont été construits ensuite les grands ensembles. Ces pierres meulières, elles ont permis de construire précisément le métro parisien, l'aqueduc du Loing qui, encore aujourd'hui, irrigue en eau courante Paris. Bon. Et ensuite, donc, dans ces quartiers, dans un quartier comme celui de Grigny 2 ou celui de la Grande Borne, on a fondamentalement aujourd'hui des gens qui réussissent et qui réussissent parce qu'ils sont ensemble dans ce contexte où il y a une énorme concentration de difficultés, d'épreuves. On sait très bien que pour réussir, en fait, il faut être ensemble. On ne réussit pas individuellement sans le collectif. Mais le fait de réussir, généralement, ça implique de partir.
Et oui, c'est ça.
Alors, voilà. Et du coup, le fait de réussir en s'appuyant sur le collectif, ça crée des formes d'attachement qui sont très fortes. Mmh. C'est pour ça que le sous-titre, c'est violence et solidarité, ressentiment. Mmh. Il y a solidarité au milieu parce que c'est central. Il y a des formes d'attachement qu'on voit là, qu'on peut pas voir ailleurs. Mais en même temps, réussir, c'est partir. J'évoquais le fait qu'on arrive là parce qu'au départ, bon, bah, il y a Amélie Coulibaly qui a grandi là. Mais aujourd'hui, Grigny, c'est qui ? C'est Golo et Richie, par exemple, la success story du cinéma français cet été. C'est la star de la R&B qui remplit l'Accord Arena à Ronisia. C'est Inès Rey qui en tournait dans toute la France, l'humoriste. Bon, c'est le nouveau président, par exemple, de la Confédération des petites moyennes entreprises aussi. Voilà.
Mais qui n'habite plus là-bas ou qui est toujours ancré localement ?
Je ne pourrais pas vous dire, je ne l'ai pas rencontré, mais enfin, il y a une notoriété publique qui est arrivée avec ses parents réfugiés politiques iraniens, qui l'a grandi là-bas jusqu'à faire Centrale et HEC. Bon, c'est pour ça aussi, nous, voilà, quand on a lancé ce livre, quand il est sorti, on a voulu faire un événement de restitution avec la population là-bas, au centre culturel Sidney Béchette, et où les uns et les autres ont pu témoigner aussi, et de la même manière que dans le livre, on donne beaucoup d'importance à ce que les uns et les autres ont pu nous dire pendant 10 ans. Et parmi les gens qu'on a rencontrés là, il y avait des gens qu'on connaissait évidemment, mais il y en a d'autres qu'on connaissait pas, et certains qui nous disaient voilà, moi j'ai grandi là, j'ai fait telle grande école, je suis actuellement en train de faire ci, faire ça. Bon, et ce sont des gens en fait qui tous savent très bien ce qu'ils doivent en fait au fait d'avoir grandi ici, parce que c'est plus difficile de grandir ici que de grandir ailleurs.
À l'heure d'écouter le micro-trottoir de Quentin, je signale que j'ai été victime d'un complot, puisque c'est Cyril, notre rédacteur en chef, qui m'avait dit que Quentin n'avait pas daigné franchir le périph', alors que oui, évidemment, Quentin, vous l'avez franchi allègrement.
Vous auriez dû me demander directement.
C'est vrai.
J'arrive, mais pas de problème.
La prochaine fois, je passerai directement par vous.
J'arrive du côté de Bobigny, l'arrêt de métro Pablo Picasso, on est de l'autre côté là, on est en Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris. Je branche mon micro et direct, je repère cet homme qui sort d'une boutique. Il fronce les sourcils, regarde le ciel et remonte son col de manteau, un peu comme si ça allait l'abriter de la pluie qui commence à tomber. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis agent immo.
Ici ? Ouais. Agent immo. Alors quel regard il porte sur le mot du jour ?
Les grands ensembles. Ça fait penser aux constructions d'après-guerre, quand fallait recruter un peu de main-d'œuvre et qu'on les a un petit peu logés dans des grands ensembles, du coup, de grands bâtiments, de grandes barres, Ça fait penser à ça, ça fait penser à de l'architecture, en tout cas, utilitaire.
De l'architecture utilitaire, des appartes dans des grands ensembles, est-ce que ça se vend encore ?
Ça se... Si, on en a encore. On en vend, mais moi, à titre d'exemple, un delta qui peut aller de 50 à 80 mètres carrés pour des appartements situés dans des bars, quoi. C'est une marchandise qui commence à être un peu vétuste, qui est plus aux normes, donc c'est des frais.
C'est combien, un 50 mètres carrés ou un 80 mètres carrés dans les grands ensembles?
On peut facilement monter à jusqu'à 6000 ou du mètre carré. Rares sont ceux qui veulent y vivre, c'est surtout de l'investissement locatif pour la plupart. Mais oui, ça se vend, tout se vend, le taudis même se vend.
Ouais, je traverse la rue et à défaut de trouver du travail, je rencontre ce jeune homme à la mine studieuse qui sort d'une bibliothèque.
Les grands ensembles. Ouais, vaste sujet.
Ouais, on fait ce sujet-là, dans Zoom Zoom Zen.
Bah moi, c'est un sujet qui me parle un petit peu parce que, d'une part, j'ai étudié la sociologie urbaine, donc c'est une thématique qui m'a toujours passionné, et j'ai découvert l'architecture brutaliste dans les Balkans, en Macédoine notamment, et en Serbie.
Je lui demande si ça a été une mauvaise idée en France, ces grands ensembles.
Bah, je pense pas que ce soit une mauvaise idée, c'était extrêmement important dans les années 50 de pouvoir loger, surtout au lendemain de la guerre. Il y a une description qui me marque toujours, moi, auquel je pense, c'est dans le livre L'Art de perdre d'Alice Zeniter, où elle parle, il me semble, de ses grands-parents qui emménagent dans un grand ensemble, neuf. Et il raconte les conditions de logement à l'époque qui sont incroyables. On a l'eau chaude. Aujourd'hui, on a de la dégradation volontaire pour pouvoir justifier des démolitions ou des relogements parce que les conditions de vie sont vraiment catastrophiques. Donc ça s'est dégradé très vite. Mais à la base, le projet est né des utopies urbaines. Et selon moi, oui, c'est plutôt une bonne idée.
Il me parle de la cité des 4000 à la Courneuve ou les barres d'immeubles de Nanterre. J'ai l'impression que ça lui plaît.
Ah oui, c'est assez fascinant, c'est assez impressionnant. Quand, la cité des 4000, par exemple, on a toutes ces fenêtres qui sont alignées, les grands ensembles de Belgrade, ils sont impressionnants. Je pense qu'il faut aller les voir. Moi, ça me fascine un peu. C'est toujours des architectures intéressantes, c'est un terrain de jeu pour les architectes. Dommage que ce ne soit pas pensé forcément pour la vie des gens.
Lui passe devant moi, il n'a pas le temps. Sac à dos à l'épaule, barbe de quelques jours, son casque de vélo dans la main.
J'ai 30 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis animateur technique dans une asso qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs.
Vous faites quoi?
On fait des travaux chez des personnes qui sont dans des logements considérés précaires ou mal logés.
Il tombe du ciel, lui. Il s'appelle Christophe. Essayons ensemble.
Les grands ensembles. Oh, c'est marrant que tu mettes ça, du coup.
C'est fou, hein?
Ouais, c'est fou, ouais.
Avec l'assaut, t'es intervenu sur...
Ouais, du coup, j'étais dans un atelier à Sarcelles pendant 2 ans. Oui, il y a un grand ensemble et là je suis à Saint-Denis. On fait de seconde œuvre, donc c'est de l'embellissement d'appartements, c'est de la peinture, le sol, de l'ameublement aussi. Voilà.
Et ça, les gens ne payent pas?
Les gens payent 10% du coût du devis. Donc par exemple, si on achète pour, je sais pas, 600 euros de bois, les habitants vont payer 60 euros.
Je lui demande ce qu'il a vu, lui, Christophe, sur quoi il a pu intervenir.
Bah, par exemple, 5 personnes dans un 2 pièces, c'est des appartements où il y a un dégât des eaux. Quoi d'autre? Des problèmes de cafards, de punaises de lit, de diogène, donc des personnes qui vont avoir accumulé plein d'affaires, plein de... Voilà. Ouais, c'est des problèmes de logement qui créent ensuite d'autres problèmes sociaux. Enfin, c'est un peu l'un qui nourrit l'autre, quoi.
Avant de le laisser filer, je lui demande ce qu'il faut faire. Démolition ou réhabilitation?
Je pense qu'il faut les réhabiliter, ouais. Et il faut mettre de l'argent, et il faut mieux les connecter. Voilà, il y a plein de choses à faire. Mais pas les raser, non. Enfin, ouais, je pense pas.
À bientôt.
Ouais, merci. Où est-ce que je peux trouver l'émission? Je tape Zoom Zoom Zoom.
Zoom Zoom Zen.
Zoom Zoom Zen. Et ça sort demain?
Ouais.
Ouais, ok, ça marche. Okay.
Je remonte la rue et je vois ces tours un peu plus loin, les fenêtres éclairées, ces grands ensembles qui pour moi restent aussi un refrain d'MC Solar.
Les sous-ensembles dans les grands ensembles, ça semble. La pelle et le bad boy. Les sous-ensembles dans les grands ensembles, ça semble.
MC Solar, le rappeur le plus sulfureux que Quentin ait jamais écouté. Merci.
Très jolie chanson.
Jérôme Truc, on vient d'entendre Christophe qui travaille dans cet assaut Les Compagnons Bâtisseurs à Saint-Denis mais aussi à Sarcelles, où les habitants ne paient que 10% des travaux. Des initiatives comme ça, c'est ça aussi qui permet de sauver les grands ensembles?
Oui, mais il faut bien voir, ce qui est intéressant dans tous les témoignages qu'on a là aussi, c'est à quel point les grands ensembles, ils sont au cœur de la société française aujourd'hui. Ils ont été construits pour la plupart dans les années 50, 60, 70. On est en 2025 aujourd'hui, la plupart des gens en fait ont un rapport aux grands ensembles. Le nombre de nos compatriotes qui sont passés par là, qui connaissent des gens qui sont passés par là. Donc, une fois encore, étudier les grands ensembles, c'est étudier la France aujourd'hui en fait. Parce que, j'entendais aussi donc, quelqu'un dire qu'il fallait peut-être plus les connecter. Alors, il y a un enjeu qui est effectivement bien souvent de dédensifier, d'en détruire certains. C'est ce qui est prévu à Grigny 2 pour essayer d'améliorer encore, réhabiliter l'avantage ce quartier-là, mais les connecter en fait, ils le sont déjà bien souvent beaucoup en fait. Une ville comme Grigny, alors qu'on dépeint souvent les quartiers populaires comme étant des ghettos, des territoires perdus de la République, en fait les quartiers qu'on évoque là à Grigny, ils sont ultra connectés à la fois au centre de la ville. Je vous disais, en fait étudier les grands ensembles, c'est étudier la France, c'est aussi parce que fondamentalement, les gens qui vivent à Grigny sont les gens qui, dans les beaux quartiers parisiens et ailleurs, vont sortir les poubelles, nettoyer les bureaux, nettoyer les appartements, s'occuper des personnes âgées qu'on met dans les EHPAD. Tous les travailleurs essentiels, les livreurs, ils vivent là, en fait, donc ils sont hyper connectés. L'autoroute A6 qui passe au milieu, c'est pareil pour le trafic de drogue qui fonctionne assez bien à Grigny. C'est une hyper-connexion avec les consommateurs qui sont dans les centres urbains, en fait.
On nous a parlé du Grand Paris pendant je ne sais pas combien de temps. C'était une promesse. Ça en est où aujourd'hui? Et est-ce que ça peut changer réellement quelque chose?
Mais en fait... ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, typiquement à Grigny, entre la Grande Borne et Grigny 2, il y a cette autoroute qui passe au milieu, désormais il y a le tram. Voilà. Mm. Et puis il y a tout un enjeu, on en parle aussi dans le livre, c'est d'avoir créé un cœur de ville. Parce que ces grands ensembles qui ont été imposés à la municipalité, donc, ils sont quand même très distants l'un de l'autre. Et ce qui fait que les gens qui vivent là aussi vivent souvent sans circuler d'un quartier à l'autre. Hein. On a un chapitre qui s'intitule Des vies cloisonnées, parce qu'en fait, au bout du compte, les gens sont dans la même ville, mais sans forcément se côtoyer, parce que les quartiers sont très distants les uns des autres. Et donc, un des grands projets, mais c'est aussi la temporalité de... On parle de la temporalité de l'enquête sociologique, là, mais aussi celle de l'action politique. Un des grands projets du maire actuel, alors Philippe Rio, qui a par ailleurs été élu meilleur maire du monde, c'est de faire émerger le cœur de ville pour essayer de relier entre eux ces deux quartiers de grands ensembles que sont la Grande Borne et Grigny 2. Et donc le tram passe au milieu. Et donc il y a un espoir de remettre davantage de mixité sociale en amenant dans ces nouveaux immeubles qui ont été créés là une clientèle un peu plus aisée, fortunée, qui pourrait très vite en fait aller dans d'autres zones de l'Essonne grâce au tram, très vite reconnecter Orly aussi. Donc oui, c'est clairement un des enjeux du Grand Paris.
Mathieu Noël sur France Inter.
On en parle depuis une demi-heure, mais connaissez-vous vraiment les grands ensembles de la Grande Borne à Grigny, aux rives du Cher à Tours, en passant par le quartier Villejean à Rennes, sachant que maintenant on ne connaît aucune des trois villes que je viens de citer. Non. Le quiz devrait être une sacrée boucherie aujourd'hui. Jouons au Zoom Zoom Test. Plus qu'un quiz aujourd'hui, une aventure in situ. Puisque pour évoquer les grands ensembles, nous partons en 2029. Un futur proche dans lequel Manon Mariani ne nous autorise plus à l'appeler la Marianoche. Elle a d'ailleurs unfollow Cyril sur Insta et pour cause, elle est devenue une star. Tout est allé très vite. Beyoncé a liké un de ses posts et dans la foulée, Manon a gagné 300 000 followers et la grosse tête.
Hey, j'ai une question, ça fait un peu connasse. Est-ce que toi aussi t'as l'impression que par moment... des gens te reconnaissent dans la rue ou pas?
Pas du tout, ça fait pas du tout comme vous dites.
Horrible,
nous sommes donc en 2029 et Quentin, lui, devenu présentateur de Rendez-vous en Terre Inconnue, après avoir scié les freins du scooter de Laurie Tillman, embarque Queen M, puisque c'est désormais comme ça qu'elle se fait appeler, en terre complètement inconnue, direction les grands ensembles. Après un trajet d'1h30 en forme de baptême du rail, puisque c'est aussi la première fois qu'elle monte dans un TER, Manon est enfin autorisée à enlever son bandeau. Elle observe bouleversée le paysage urbain qui défile.
Mon Dieu, avec le gros berge.
Là, oui. Bon, alors, bref. Et pourtant, Manon ne sait pas qu'elle vient d'arriver à Long Beach. Car Long Beach.
Vous me respectez pas, Mathieu.
Long Beach est le surnom donné par ses habitants à Longchamp, Neuilly-Plaisance ou Longjumeau.
C'est.
Pour vous, c'est Neuilly-Plaisance.
C'est trop facile, sinon. Non, c'est B.
Longjumeau. Ouais. Vous connaissez bien cette zone-là.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est une bonne réponse de Quentin. Lui, c'est bien sûr. Vous ne verrez plus jamais Longjumeau de la même manière, si tant est que vous avez déjà vu Longjumeau de quelque manière que ce soit. Oui, là-bas, les jeunes ont adopté le petit surnom de Long Beach, qui donne tout de suite un côté plus cool à cette ville, où les rues ont des noms de pierres précieuses. Rubis, saphir, topaz. Et si on remonte la West Coast, on peut bronzer à Court Beach, surnom donné à Courbevoie, et même Blanc Coq, la version ensoleillée du Blanc-Ménil. Je sais pas si vous le connaissiez, ça.
Non, j'avais essayé avec Alençon, moi.
Comment
j'avais essayé avec Los Angeles.
Los Angeles, ça n'a pas pris. Mais vous le dites aujourd'hui au micro de France Inter,
ça va prendre.
Ah, trop bien. Du coup, on va maintenant se dit Manon. Vous voyez que ça vous plaît les grands ensembles. Eh bien, réjouissez-vous car je vous emmène voir la 7e merveille du monde à Clermont-Ferrand. Si quelqu'un peut ramasser Manon, on va donc à Clermont-Ferrand en Ouigo. Si quelqu'un peut re-ramasser Manon, car à Clermont, on peut visiter les vestiges du Colisée, du Taj Mahal ou de la muraille de Chine.
Ah.
C'est...
Pour une fois, je connais la réponse. Bon, c'est écrit en gras dans mon truc, mais je le sais. Vous avez dit quoi, vous? Non, et vous? C'est oui, bonne réponse, Quentin. Magie du folklore auvergnat. Clermont, c'est Volcan, Michelin et La Muraille de Chine, un grand ensemble de 350 logements sur 8 bâtiments, achevé en 1961 et détruit en 2023. Une pépite, découverte évidemment par Quentin en parcourant le petit bleu d'Auvergne pour sa chronique PQR. Mais attention, les grands ensembles, c'est pas forcément la grisaille, le béton et les épaves de voitures. C'est aussi pour certains, comme Cyril Lacarrière, le théâtre de moments fondateurs de notre histoire contemporaine.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Président Sarkozy à son prime, se souvient Cyril, l'œil humide, et serrant contre son cœur son exemplaire dédicacé de Libre, Paris, paru en 2001, et dont la nouvelle édition sera rebaptisée Libre, mais sous bracelet électronique. À Cédric, avec toute mon amitié, avait-il écrit. Et justement, c'est en 2001 que celui qu'on considère comme le premier grand ensemble de France va être classé monument historique. D'après vous, il s'agit de la cité de la Muette à Drancy, les Minguettes à Vénissieux, ou la cité des 4000 à La Courneuve.
Ah! Moi, j'ai tout faux pour le moment.
C'est...
Bon, la cité des 4000 à La Courneuve, très connue, effectivement. Et vous, vous dites les réponses A, Manon? La cité de la Muette à Drancy, c'est une bonne réponse, Manon. Oui, construite en 32, première HLM et premier grand ensemble de France, les 1250 logements de la cité de la Muette ont été construits en béton préfabriqué, procédé novateur pour l'époque. Le chantier ne sera pleinement terminé qu'en 46, ce qui ne l'a pas empêché, hélas, en 39, de servir de camp d'internement et de rassemblement aux Juifs, puisque la Muette se situe à Drancy. Après un tel fun fact, difficile de relancer la dynamique du Gai Savoir, mais on peut essayer en musique, puisque l'ultime question de ce quiz porte sur de grands ensembles qui portent le nom de stars de la chanson. Manon, Quentin, d'après vous, quel célèbre chanteur français est l'homonyme d'un non moins célèbre grand ensemble? S'agit-il de Vianney, de Benjamin Biolay ou de Julien Doré?
C'est...
Vianney, non, peut-être. Ah ouais.
J'ai dit c'est, Julien Doré.
C'est, donne l'opportunité d'une autre réponse.
ABC.
Non, moi, ABC. J'ai voulu vous aider, Manon, mais ça va trop loin. C'était les réponses B. Et c'est...
Sourire dehors à Angoulême.
Ah, mince, Manon, ça c'est Angoulême, elle est tombée. Bref, oui, autant il y a des collèges Georges Brassens dans 36% des communes de France, données issues de l'Institut Gérald Darnaud, mon auteur, autant vous ignoriez sûrement l'existence de la Cité Dorée, un groupe d'habitation du 13e aujourd'hui disparu, ainsi que le quartier Biolay, avec deux L, à Chambéry. Il est à noter, et c'est regrettable.
Ah ouais, mais ça, c'est n'importe quoi.
Non, c'est pas une arnaque, c'est pointu, ça n'a rien à voir.
Et il c'est pas écrit pareil.
Et c'est regrettable qu'il n'y a pas encore de cité Vianney.
Je suis une cruche.
Non, Quentin, d'ailleurs, vous gagnez le quiz. Bravo.
Merci.
Le sociologue et chercheur au CNRS Jérôme Truc est avec nous pour son immersion à Grigny. Il en a tiré un livre coécrit avec Fabien Truong, Grand Ensemble, il faut bien respecter le jeu de mots, Violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires. C'est aux éditions de La Découverte, l'envers des faits. Pour revenir sur ce sous-titre, Violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires, un mot de la violence quand même dans ces quartiers, elle n'est pas que fantasmée, hélas.
Non, on en a parlé déjà parce qu'en fait, il y a la violence terroriste qui nous fait arriver là, et c'est la première partie du livre. Et on se rend compte dans ces mots que j'évoquais des habitants, en fait, que l'épreuve terroriste, elle semble exacerber en fait les difficultés qu'on éprouve au quotidien et qui font aussi, comme je le disais, que réussir ici, trouver sa place, demande tout un enveloppement collectif, toute une solidarité à l'épreuve des difficultés auxquelles on est confronté. Et donc cette violence, elle est exacerbée par l'épreuve terroriste. C'est la violence d'abord de la stigmatisation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc qui est... Finalement, ce que peut-être en commun tous ces gens qui peuvent avoir des trajectoires et être issus de groupes sociaux différents mais qui vivent là, aujourd'hui, dans un pays comme la France, c'est le fait de se savoir en permanence scruté dans les médias et discriminé. Donc c'est cette conscience dédoublée en fait qui fait qu'on fait les choses, on vit là et en même temps on sait que le moindre truc va être l'objet d'un article de presse où on va encore dire que ce qui se passe ici c'est pas bien, etc. Et il y a cette violence-là, puis il y a une violence aussi bien réelle mais qui est pas propre, elle se concentre en fait ici, elles sont pas propres à ces quartiers-là. Il y a la violence viriliste, qui est à la fois la violence des violences policières, mais la violence aussi des jeunes trafiquants, et les violences dans les foyers, les violences domestiques. C'est la violence aussi que j'évoquais de l'exploitation, qui est là dès le départ, parce qu'en fait, il y a ces flux qui, en fait, au départ, appauvrissent en richesse ces territoires, et puis qui ensuite leur imposent des populations, et ensuite, en fait, il y a ces mécanismes de flux systématiques qui font que, comme d'autres villes ne veulent pas prendre leur part au fait d'accueillir les personnes qui arrivent en France, ben, en fait, tous vont se concentrer là, et donc en fait, c'est une mécanique permanente qui fait violence en fait aux gens qui habitent là, mais il en reste pas moins que pour autant, certains peuvent faire le choix de venir. Hein, on peut faire le choix de venir à Grigny, choix d'y rester aussi, mais ça fait sens par rapport à ce contexte très particulier. Et si le sous-titre du livre, du coup, c'est violence et ressentiment dans les quartiers populaires, c'est qu'une fois encore, ce qu'on observe à Grigny-là, en fait, est emblématique de ce qui se passe dans la France en général aujourd'hui. C'est vraiment une photographie, une fois encore, une ville comme Grigny est tellement connectée, en fait, au reste de la société, aux zones périurbaines et au centre-ville, qu'en fait, c'est vraiment une sorte de laboratoire pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui tous collectivement à l'épreuve de ces questions de la violence, de la solidarité et du ressentiment qui sont si prégnantes dans notre société aujourd'hui.
Quand on vous lit, évidemment, on pense au maire de Grigny, Philippe Rio, qui a été élu meilleur maire du monde en 2021. Comment il a obtenu ce titre, malgré tout ce que vous dites sur sa ville?
C'est pas malgré, en fait. C'est justement grâce à tout ce qu'il fait par rapport à ça, et notamment parce que bah, y a aussi la crise du Covid, la pandémie dont on n'a pas parlé, mais qui là aussi a pris des proportions complètement dramatiques, parce que la plupart des gens qui sont les travailleurs essentiels et qui vivent à Grigny, en fait, du jour au lendemain, on a là des gens qui en fait sont employés comme, par exemple, femmes de ménage, mais au noir, qui du jour au lendemain sont pas rappelés, qui ont déjà pas beaucoup de revenus, qui en ont plus du tout, voilà, des gens qui sont en intérim, etc. Et donc, en fait, il y a une situation d'urgence. Déjà, vivre à Grigny, globalement, pour beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle dans le livre un état d'urgence permanent. On est tout le temps amené à devoir faire face à des crises, à s'entraider, pour faire face aux difficultés. Par exemple, la suroccupation des tours de Grigny 2, ça implique en fait des incendies très régulièrement, parce que voilà, il y a des multiprises partout, et donc en fait il y a des incendies. Et dans le contexte du Covid, donc, c'est encore un peu plus exacerbé. Et donc, le maire de Philippe Rio, ça va faire une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, qu'il fait tout ce qu'il peut. Il met tout en œuvre pour essayer de faire face à ces difficultés-là. Il faut aussi se souvenir qu'il y a eu un appel de Grigny lancé en 2017 qui a donné lieu de tous les maires de banlieue, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour essayer de changer le regard sur les banlieues et de faire évoluer les choses. Et puis ça a donné lieu au rapport Borloo qui a été jeté aux oubliettes par le président de la République. C'est pour ça qu'on termine le livre en disant qu'en fait la question n'est plus du tout de savoir quoi faire des grands ensembles. Cette question, elle est posée quasiment depuis le début. Et en fait, on l'a dit, on l'a répété, les grands ensembles, en fait, c'est la France aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps qu'ils existent que la plupart des gens sont connectés à ces grands ensembles. La question, c'est de savoir comment grandir ensemble. Parce que cette vision qu'on a complètement caricaturale des banlieues, la permanence d'un discours médiatique stigmatisant qu'on porte sur ces quartiers-là depuis des années, aboutit en fait, au bout du compte, à un débat public, médiatique, qui est assez mesquin en fait, qui est assez petit. Il suffit de voir encore les polémiques les plus récentes, et on en a malheureusement beaucoup trop souvent, traduisant une forme de petitesse en fait, de méconnaissance qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Et c'est très très important en fait le rôle des médias de ce point de vue-là. Et donc la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on sort de ça et comment on finit par juste se reconnecter avec une vision réaliste de notre pays.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Hier, elle aurait pu jouer sans maquillage dans la nouvelle saison de The Last of Us. Elle semble un peu mieux aujourd'hui.
Oui, ça va, c'est moins rouge.
Et elle nous indique l'autre personne à suivre, Manu.
Je vous présente Ladjli, il a 47 ans, il est français. Il a réalisé l'un des meilleurs films français sur la banlieue, Les Misérables, sorti en 2019. 4 Césars, prix du jury à Cannes. Un film que les critiques de cinéma qualifient de coup de poing. J'aime bien cette formulation. Il suit des policiers confrontés à la violence et aux tensions sociales dans une cité de Montfermeil. Ladjli s'est inspiré de faits réels, notamment des émeutes de 2005 et de ses propres expériences. Pour plus de réalisme, il réalise Les Misérables comme un documentaire, caméra à l'épaule. On est plongé dans les inégalités, la brutalité policière et la frustration de ses habitants. C'est tout un système que dénonce Ladjli. Un système qu'il connaît donc bien puisqu'il a grandi dans ce quartier des Bosquets à Montfermeil. Dès son adolescence, il se passionne pour l'audiovisuel et il commence à documenter la vie dans ces quartiers populaires à travers des reportages et des courts-métrages. Il rejoint ensuite le collectif Courtrage Mais aux côtés de figures comme Kim Chapiron ou Romain Gavras. En 2018, il crée d'ailleurs l'école Courtrage Mais pour former gratuitement des jeunes de quartiers populaires au métier du cinéma. Et puis, en 2023, il réalise son deuxième long-métrage Bâtiment 5 qui n'a pas eu énormément de succès.
Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
J'ai pas le dossier en tête, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
Bah non, justement.
Cette fois-ci, Ladjly ne s'attaque pas aux violences policières, mais aux banlieues laissées à l'abandon par les pouvoirs publics. Il montre comment les politiques de réaménagement urbain peuvent entraîner la démolition de ces immeubles emblématiques en obligeant les habitants à quitter leur foyer sans solution de relogement derrière. Le film met en lumière la résistance de ces habitants face à ces décisions à travers le personnage de Abby Keïta. Bâtiment 5 parle de la crise du logement, de la gentrification, des expulsions forcées qui sont des problématiques courantes dans les grands ensembles urbains globalement. Ladjly dit avoir voulu faire un film pour toute la France pour dénoncer le mal-logement qui touche plus de 6 millions de Français.
Merci Manon. J'ai un truc d'un mot. Ces films, cette multiplication des films sur la banlieue, dont certains sont vraiment excellents, ils sont films coup de poing, comme disait Manon. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que certains véhiculent sans le vouloir parfois certains clichés finalement sur la banlieue ?
C'est une bonne chose dans la mesure où ils sont produits et réalisés par des gens qui sont issus de ces quartiers, qui savent de quoi ils parlent. Il y a la difficulté, comme pour les journalistes, d'un écosystème économique qui font qu'aussi après il y a les contraintes imposées par les producteurs, qui font qu'il y a des choses. Donc ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on produit ces représentations médiatiques ou cinématographiques. Mais fondamentalement, c'est une bonne chose au sens où ça peut participer de la construction d'une contre-image, d'un contre-discours. C'est exactement pareil en 2015. Il y a une vidéo qui est devenue virale, qui à l'époque aide aussi, en même temps qu'il y a le collectif qui fait sa mur de parole. Il y a Reporters Citoyens, une association avec des jeunes de la ville qui fait circuler cette vidéo pour dire, en fait, on en a marre qu'on nous décrive tout le temps comme des herbes folles, etc. C'est pas les paroles de quelques collégiens pris à la sauvette comme ça, qui n'ont jamais vu un petit coup de leur vie, à qui on leur demande en gros ce qu'ils en pensent, qui peuvent être représentatifs en fait de 27 000 habitants d'une ville comme Grigny. Voilà.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Pierre Courade 1, ChatGPT 0. Ainsi s'est soldé, d'après la plupart des observateurs, le match Courade intelligence artificielle à ce micro hier. Je lui ai fait bouffer son algorithme à votre demeurant québécois, fanfaronné Pierre à l'issue de ce choc des titans, dont le résultat n'arrange pas Cyril Lacarrière qui avait prévu de le virer pour, je cite, faire des économies d'échelle. Non Pierre, vous êtes toujours là, coûteux mais irremplaçable, et vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et déjà on a appris à se présenter dans cette émission, hein, donc bonjour, c'est Pierre. Ensuite, on a appris que les grands ensembles, c'est comme l'IA en fait, une idée louable au départ qui se fracasse contre les réalités humaines. Notre invité, le sociologue Jérôme Truc, s'est plongé avec son collègue Fabien Truong dans ses quartiers emblématiques des Trente Glorieuses en banlieue parisienne, à Grigny, pendant 10 ans. L'idée de départ était de construire rapidement et de manière fonctionnelle au sortir de la guerre. Le Corbusier voyait du soleil, de l'espace, de la verdure pour tous les logis. Aujourd'hui, Jérôme Truc ressent surtout un sentiment de dégradation. La mixité sociale y est plutôt hétérogène, beaucoup plus que dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement en tout cas. Néanmoins, la pauvreté, le chômage et la violence y sont concentrés. Heureusement, l'entraide et la solidarité s'organisent, mais c'est avant tout en réaction à la discrimination et au manque de services publics. Même à Grigny, dont le maire a été élu meilleur maire du monde, les grands ensembles restent une survivance du passé. Or, l'architecture détermine une vie sociale. Comment y remédier ? Avec toujours plus de présence humaine, là encore, l'IA ne sera pas d'une grande utilité.
Mais ma parole, je crois que vous avez fait quasiment une minute.
Je crois qu'il a fait moins.
Mais c'est un record historique, Pierre Courade. Très bien, bravo, merci Pierre. Rosa Burstein, comme ça, a priori, on imagine que vous avez passé votre enfance à donner à manger aux canards du parc Monceau. Mais serait-ce un cliché ?
Mathieu, je suis offusquée.
Pardon.
Ce n'étaient pas les canards du parc Monceau, mais ceux du jardin du Luxembourg. Oh, des canards du 8e, enfin, mais vous m'avez pris pour coin-coin. Ce temps-là est révolu, pourtant. Mes parents étaient des locataires à Paris et moi, j'ai acheté à Bagnolet, en banlieue, dans le 93, parce que je gagne pas le salaire de Mathieu Noël. Voilà. Et tous mes amis parisiens sont écœurés. Ils me disent « Mais comment tu fais en sortant du métro Gallieni ? C'est tellement moche !» Là, je me laisse pas faire. Je réponds « Comme ta mère ?» Oui, pardon. Quand on attaque ma ville, j'ai la répartie d'un gamin de 14 ans. Voilà, j'insulte les mamans, direct. Et résultat, ils surenchérissent. Attends, mais Bagnolet, c'est en face de Paris, mais c'est pas Paris. C'est un peu le faux Nutella de la marque distributeur Noisettos. Celui tout en bas du rayon dont t'as honte de parler en soirée. Pas du tout. Moi, je suis fière de Bagnolet. On a nos tours jumelles à nous, les Mercuriales. Et contrairement au commissariat de Bagnolet, elles ont pas sauté. Les tours sont inspirées du World Trade Center. Ref paradoxal. Le symbole du capitalisme à Bagnolet, ville où le cinéma communiste projette un seul film du Turkménistan pendant 6 mois, non sous-titré. Les tours devaient être transformées en palace 5 étoiles. Or, elles sont toujours à l'abandon. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. La DGSE, du pont de Ligonnès, le PS. caisse, maman, on sait pas. Mystère. Un peu comme la chatte à ta mère. Gabriel, qui habite à Jules Geoffrin, je leur demande à tous ces parigots comment ils feront le jour où ils auront des enfants dans 35 mètres carrés. Bah, on se serrera, on fera des sacrifices, mais au moins ils iront à Louis le Grand. La scolarité à Bagnolet, super. Pour qu'ils fassent quoi? Un BTS? BTS délinquant? Option Uber Eats? Discours bien différent du côté de mes voisins bagnolettais. Très difficile à dire, un bagnolettais. Je sais pas pourquoi je pense à l'été, à tété, à des tétons, à l'été. Bref, c'est l'enfant de Thierry Courrière qui est là. Mes voisins de Bagnolet, Clara et Benoît, ont acheté une maison dans le quartier aux fleurs et prônent une gentrification pacifiée. Attends, c'est hyper cool la mixité. Bagnolet, c'est méga populaire, t'as de tout. Des Arabes, des Juifs, des Noirs, des Portugais et maintenant des gens normaux comme nous. Qui donnent un petit coup de pouce au commerce de proximité. Il parle de l'épicerie bio locale où tu paies 10 euros le champignon à l'unité, mais où t'entends Radio Nova à fond. Voilà, comme si la voix d'Emeric Lompré équilibrait le prix du kilo de tomates cœur de bœuf. Ils savent pas que je fais des chroniques à France Inter, ils me les jetteraient à la figure. Une sauce très onéreuse. Mais je commence à avoir l'habitude d'être dans des sauces. Chroniqueuse à France Inter, tu te fais autant traiter de gauchias que de sale réac. Et moi, j'adore être à la convergence des haines. Non, c'est faux. Je veux l'amour de mes voisins bagnolets tétés, qui sont des gens bien. Clara et Benoît culpabilisent énormément d'avoir mis leur fille dans le privé. Nous, on a été dans le public toute notre scolarité, donc bien sûr que c'était pas facile comme choix, on n'en dormait pas. On faisait des migraines, des insomnies, on n'avait plus de libido, zéro envie de baiser, de risquer de refaire un gosse, de devoir lui aussi le mettre dans le privé à bagnoler et de culpabiliser deux fois. Mais ligaturez-moi les trompes et vasectomiez Benoît, ils bandent tout le temps, ce con. Je hoche la tête en les écoutant, ils essaient de positiver. Après, ils sont trop mignons, nos dealers. Je sais pas si vous avez vu, la dernière fois, ils écoutaient du jazz sur la place du marché. Ils aident toujours Samira à porter ses courses. On a même un pote qui s'est fait cambrioler sa baraque. Les dealers ont retrouvé le gars et l'ont zigouillé. Véridique. Il rit, heureux, et ajoute « Tu vois dans la rue la façade défoncée où il y a un arbre qui sort de la fenêtre brisée? Bah derrière, dans la cour, t'as un putain de penthouse d'architecte caché. C'est ça, Bagnolet. Il y a un petit côté Malibu, sans les feux, qui veut du noisettos. »
Merci, Rosa Burstein. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et sur scène dans votre nouveau spectacle Dédoublé au Théâtre de l'Œuvre et en tournée. Merci Jérôme Truc de nous avoir fait découvrir les grands ensembles
Merci
de l'intérieur. Je rappelle votre livre Grand Ensemble, violence, solidarité, ressentiment dans les quartiers populaires. Zoom Zoom Zen.